Première règle. Avez-vous des précisions ?
La première règle ?
Ouais. Je crois qu'on a... Si on l'a abordé, ça...
Pourquoi on l'a pas fait ?
Non.
On n'a pas vu la première règle ?
Non, on a travaillé sur...
sur
la
lumière.
Oui, parce qu'il y a une séance qui a été annulée.
On a travaillé sur la lumière qui... qui a contaminé la première règle. Qui a le règle, mais on n'a pas travaillé la règle.
Bon. Alors, mais vous l'avez étudié quand même ou pas ?
Oui. On l'a vu. Je l'ai.
On l'a déjà étudié.
Et ça vaut le coup parce que c'est extrêmement intéressant. Donc,
alors là, je vous rappelle le principe. Bien sûr, je vous avais expliqué la différence entre les lois, les commandements et les règles. Bon. Donc oui, on avait fait le préambule.
Moi, j'ai pas pu venir la dernière fois, donc c'est un petit rappel.
Écoute, on va
pas refaire
le cours parce que quelqu'un n'est pas là.
Non, mais bon, de toute façon, je suis là, hein, grâce à Joël, différence entre une loi, un ordre, un commandement et une règle. J'ai lu le document grâce à Joël.
Alors, examinons la règle 1. Que le groupe se tienne dans le feu du mental, focalisé dans la claire lumière de la tête. Le terrain ardent a fait son œuvre, la lumière claire et froide rayonne, elle est froide et pourtant la chaleur suscitée par l'amour de groupe permet à la chaleur dynamique de s'extérioriser. La porte est en arrière du groupe, devant lui s'ouvre la voie, qu'ensemble et en groupe les frères s'avancent, qu'ils sortent du feu, entrent dans le froid et se dirigent vers un nouveau point de tension. Les règles sont à la fois pour le disciple et pour l'initié. Ce qui veut dire qu'il y a différents niveaux de compréhension et de lecture. Quand il est dit qu'ils se tiennent dans le feu du mental, bon, vous comprenez bien que c'est par le mental que l'être appréhende et comprend. La difficulté, c'est que le mental nous donne la liberté de choix, mais cette liberté comme l'enfant peut permettre, j'emploierai un mot d'enfantillage, le vagabondage. Ce qui veut dire que notre mental doit être tenu sous contrôle. Nous avons évoqué au fil des différentes réunions les 12 secondes qui nous permettent d'observer ce que notre mental traduit en situation. Une des clés majeures du disciple, au sens où disciple veut dire celui qui se discipline aux lois de la vie, cela se traduit par la maîtrise du mental.
Intérieur.
Non. Du mental. Dans ces trois aspects. mental concret, âme, mental supérieur. Et en fait, comme s'il s'agit d'une énergie de feu, eh bien, un feu doit être sous contrôle. Autrement, il est dévastateur. Le mental est l'énergie de feu. Alors, il participe à la lumière. Qui sera de différentes natures. Selon le champ de conscience où il va s'exprimer. Selon le niveau de conscience, conscience physique, conscience émotionnelle, conscience mentale concrète, conscience de groupe, de l'âme, conscience supérieure, mentale supérieure, conscience bouddhique, conscience atmique, conscience monadique, et au-delà, le feu se nourrit de l'essence du plan de conscience. Et cela donne la lumière qui traduit, éclaire la qualité de celui qui l'exprime. On a vu au fil...
Ils vont être tirés les autres ?
Ouais.
Non. Bon, mais on va le prendre là, de toute façon.
Un être peut être purement et simplement en conscience physique. Il y en a encore. Le gros de l'humanité est en conscience astrale, conscience mentale, c'est-à-dire faire un usage raisonné du feu du mental, même si ça va se traduire par un usage irraisonné au départ. Mais vous avez beaucoup d'êtres qui sont actuellement en mental émotionnel et qui vivent dans leurs pulsions et passions émotionnelles. Lui qui se discipline aux lois de la vie doit avoir un usage cerné du mental, c'est-à-dire qu'il s'en sert consciemment avant de passer à la distinction de conscience entre ce qui est le bien et le mal. La petite voix qui est en nous et qui nous dit « Tu t'es planté, t'as fait une erreur », eh bien, c'est notre être intérieur. Cette petite voix, c'est notre être intérieur. À ce stade, l'être va rentrer dans à la fois le champ de bataille et le terrain ardent. Le champ de bataille de l'humanité, c'est l'astral. Avec tout ce que représente cette masse de pollution globale. À savoir qu'on est tous confrontés à la pression de ces pollutions, de cet égrégore de l'astral, et qui nous sépare de la réalité supérieure. La discipline va être le terrain ardent qui va nécessiter la non-dépendance émotionnelle et la non-dépendance au lunaire du mental concret. Le terme disciple doit être associé au terme maître, dont la seule réalité c'est « je me discipline, je me maîtrise ». Un disciple, c'est celui qui discipline ses vies mineures de son corps émotionnel, de son corps mental concret et de son corps énergétique éthérique pour atteindre la maîtrise. Alors le travers, il est toujours, la déviance, elle est toujours, c'est le disciple de quelqu'un, c'est-à-dire qu'à l'usage, ça s'est fait ça, c'est la même chose qu'un gourou, et puis appelez-moi maître, hein, je veux dire, bon voilà. Hein ? Dans la réalité, il n'y a simplement que des êtres plus avancés dont l'appellation de référence ne serait que les anciens, sur le chemin. Le terrain ardent va être les phases de mise en condition, de mise en tension, générée par notre être pour susciter un champ d'épreuves dans le but d'en avoir le contrôle, la non-dépendance et ultérieurement la maîtrise. Je vous rappelle que la Terre est une planète d'expérience. C'est sur la Terre que l'être montre sa qualification à la maîtrise. Dans toute aventure de la vie, soit consciente, supraconsciente et au-delà, comprenons bien qu'il y a le point de départ qui est l'entrée dans le parcours de progression, d'évolution qui concerne cette vie. Et bien évidemment, un point de départ où c'est une potentialité pour atteindre la porte de sortie qui est la maîtrise.
Ce qui veut dire que dans cette aventure, l'imperfection, de l'imperfection, naîtra la perfection. Du corruptible naîtra l'incorruptible. Ne soyez pas là à dire l'enfant est pur, il a un passé antérieur et par conséquent, c'est une vue qui n'est pas celle de l'esprit. Quand vous venez à un groupe, et nous allons définir au fur et à mesure quelle est la nature d'une réalité de groupe, vous allez rentrer dans un champ énergétique. Et c'est pour ça que les anciens ont pour surveillance de monter progressivement la puissance du groupe pour que les êtres ne soient pas comme un plat culinaire. Il faut que ça mitonne comme il faut. Il ne faut pas que on crame, comme on dit. Voilà. Mais sachez cela. C'est ce qui va générer chez chacun de nous des tensions qui vont se traduire par des points de crise. Ce qui veut dire que vous aurez logiquement des êtres qui vont s'écarter temporairement ou définitivement parce que c'est ainsi pour eux. Pourquoi c'est ainsi ? Parce que la racine de vie a trois fonctions fondamentales. La première, c'est de gérer justement ce processus de progression. Il y a donc à la fois une poussée, mais aussi une retenue pour que le cristal devienne diamant. Le deuxième aspect, c'est que la racine de vie porte en elle son destin dans sa réalisation accomplie, ce qui veut dire que la racine de vie, la vie que vous êtes, porte en elle son aboutissement. Le troisième aspect de la racine de vie, c'est cette énergie de vie qui conquiert la mort et qui donne à la sortie du règne humain l'immortalité. Ça veut dire quoi? En faisant une parenthèse rapide, l'immortalité est d'abord liée au cycle de manifestation de la plus grande vie, c'est-à-dire du logos planétaire, puisqu'après, la vie reprend un nouveau cycle. Donc l'immortalité, c'est le temps qui reste avant que le logos planétaire ne se retire. Mais c'est aussi le fait que l'être s'auto-créera. Donc il a conquis la mort au sens où il n'est plus tenu à l'obligation de revenir, sauf par amour pour aider la réalisation du plan divin.
Ça, c'est les bodhisattva.
Il n'y a pas que les bodhisattva qui effectuent ce genre de... Tu as les nirmanakaya, les sambhogakaya. Est-ce que tu en sais plus quand je t'ai dit ça? Et il y a les karmakaya.
Et là, une âme qui s'est coupée. s'occuper de la source par rapport à l'immortalité, elle la perd ou elle va quand même repartir?
Alors, la vie est indestructible. Simplement, je vais imager le sujet, une goutte de vie a un dessin. Ce qui veut dire qu'une goutte de vie porte en elle une particularité qui lui est propre dans le vaste ensemble. Si la manifestation qu'elle a générée et à qui elle donne le libre arbitre, au sens où, répondant au troisième principe, au troisième postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation des vies plus jeunes, si l'unité de conscience, l'entité qui a élevé cette entité lunaire qu'on appelle la personnalité, et que l'entité lunaire, la personnalité, se sépare de l'entité solaire, donc de l'âme. Eh bien, si ça perdure, le solaire décroche. Dans le cas où des êtres se livrent à des atrocités. À partir de ce stade, c'est une âme perdue. Ce qui veut dire que cet être, soit parce que il n'a même pas réussi à se réaliser en tant qu'être, soit parce que c'est un frère noir, donc qui en son temps a été au fait des choses, il n'a d'autre issue ou de se soumettre à la loi, aux lois de la vie, ce qui veut dire de reprendre son parcours karmique, avec tout ce que ça signifie d'épreuve de vie au pluriel, soit il sera annihilé en conscience. Donc cette entité individualisée, ce qui veut dire que tu as d'un côté l'entité solaire Abel, qui est venue pour élever la matière au ciel, et la matière c'est Cain, c'est l'union en fait, voilà, le processus fait qu'il y a rupture, ce qui veut dire que ou il se soumet, ou cette unité de conscience sera détruite. Mais la vie qui est à l'origine, elle n'aura simplement que, comme on dit, à corriger son tir.
Quand il est annihilé en conscience, après il reste quoi? Il n'y a plus rien.
Il y a du vide.
Annihilé,
du vide.
C'est...
Annihilé. Disparu.
Ça disparaît.
Disparu.
Ça disparaît complètement.
Oui. Au fil, la vie qui est arrivée au stade d'évolution humaine, quatrième hiérarchie créatrice. Cette vie doit unir, j'extrapole pour vous compreniez bien de survoler le sujet. La quatrième hiérarchie créatrice, sur le plan physique cosmique, ici, est entre les trois hiérarchies au-delà du règne humain et les trois en dessous. Et la quatrième unit l'ensemble. Elle doit synthétiser en elle, c'est-à-dire qu'une entité humaine, un sage, à un moment donné, synthétise l'ensemble des hiérarchies. Ce qui fait qu'il est Dieu marchant sur la terre parmi les reines de la nature. Reine de la nature qui va jusque le quatrième règne, qui est un règne de la nature. Cette vie humaine a comme challenge, en fait, à terme, de synthétiser au niveau des vies. Et pour ce faire, elle crée des unités de conscience qu'on appelle une entité. Tu as une entité solaire et en réponse, toutes les vies des hiérarchies inférieures se constituent, deviennent une entité
lunaire. Caïn, Abel. La finalité, c'est que Abel devienne en Caïn. Tout le challenge est là. Oui, oui, c'est-à-dire. Oui, voilà. Pourquoi ? Parce que le dessein de la vie au plus haut des cieux est de pouvoir dire consciemment, dans notamment le deuxième système solaire où c'est l'aventure du Fils, moi, je suis fait d'esprit et de matière, moi, en conscience divine, je suis matière.
Mais ça, dans le système pédagogique où on est, où, avec l'espace et le temps, est-ce que c'est une manifestation à la fois ? Est-ce que mon âme peut avoir d'autres manifestations aujourd'hui ailleurs sur Terre ? Ou dans d'autres systèmes en même temps ?
Alors, ce que tu évoques, c'est un stade très avancé d'initiation. Et par conséquent, il ne faut pas l'introduire dans l'étude. Mais tu as des êtres qui peuvent être de leur racine de vie 5 fois sur la Terre. Ouais. Parce que chaque niveau de conscience qui est leur, leur permet de recréer à partir de ce niveau de conscience un corps qu'ils projettent, une manifestation qu'ils projettent. Mais là, on s'en va dans des domaines où je ne tiens pas à vous emmener pour l'instant.
Il suffit de savoir à quel niveau la coupure se fait.
Oui, mais quand attends, quand j'évoque ça, c'est que non, c'est la racine de vie qui est totalement réalisée, et chaque véhicule de manifestation est devenu pur cristal diamant, et il peut se reprojeter parce que tu as le phénomène de liberté qui fait que une entité, eh bien, quand elle est générée, elle est créée.
Elle s'autogénère.
T'as rassemblé l'esprit, t'as rassemblé la matière. Voilà. Il est intéressant dans l'anthropogénèse de voir comment l'esprit est descendu dans la matière et au fur et à mesure a créé ses véhicules. Et ça n'est pas évoqué parce que c'est éminemment ésotérique, mais à l'inverse, on voit comment le phénomène se traduit dans l'autre sens. Tu vois, par exemple, à partir du milieu de la troisième race racine, eh bien, tu as eu les corps solides, mais préalablement, tu as eu les êtres nés de la sueur, c'est-à-dire que ils avaient des corps protoplasmiques et c'est comme si, comme un corps de méduse, vous voyez, et clac, ils perdaient une partie d'eux-mêmes et ça repermettait, bon, eh bien, t'as le phénomène complètement opposé dans la remontée.
Ça veut dire qu'ils ont, ça veut dire qu'il y a fusion avec les devas.
Ah mais la fusion avec les devas, tu l'as à un stade d'androgénéité. Oui. Quand tu deviens androgyne, en fait, tu rentres dans le processus d'autocréation.
Bernard, tu nous disais que quand un être, plus un être est élevé, et plus il avait besoin, en fait, d'avoir un mode d'expression qui n'était plus seulement un être, que ça pouvait être un groupe.
Parce que tu pars de l'unité, la vie. Dans tous les univers, il n'y a qu'une seule vie. Et plus tu vas remonter, plus tu reviens dans cette unicité et cette unité. c'est le véhicule qui te différencie, mais pas ton essence intérieure. Quand tu arrives au plan de l'âme, ici, là, il n'y a plus ton âme, mon âme, il y a l'âme. Tu as le phénomène dans la matière, va chercher la goutte d'eau qui est dans le pot. Bon, mais là, il faut extrapoler au sens où on est dans un retour vers l'absolu. Et par conséquent, tout élément devient riche de cette réalité progressivement. Alors, vous noterez une particularité. Hein. Le lotus égoïque est sur le troisième sous-plan pour le quatrième règne, et il est sur le deuxième sous-plan pour le cinquième règne.
Troisième sous-plan pour le quatrième règne, c'est ça ?
Oui. Pardon ? Oui, oui. Quand je dis deux, c'est en comptant du haut. Hein. Trois, c'est en dessous. Alors évidemment, ça, c'est une distinction extrêmement importante, puisque si vous regardez les références numériques, on passe déjà dans le 2, hein, c'est-à-dire lié à la ligne d'amour, alors que le 3 est lié à encore l'intelligence, l'intellect, au développement.
Et si je comprends bien, le 6e règne, la racine montera
non.
Le premier...
Non.
Directement.
Non, parce que à un moment donné, tu as destruction du corps causal.
Oui, donc il n'y a plus de nécessité.
Tu es en dualité. Ouais. Tu n'es plus en triplicité.
Ah oui.
La première règle, en fait, nous invite à contrôler le bon usage du mental. Que le groupe se tienne dans le feu du mental, focalisé dans la claire lumière de la tête. C'est-à-dire la tête à un moment donné est le centre de conscience de l'âme. Cela invite les êtres à toujours avoir un regard d'analyse, de compréhension de ce qui doit être... dans l'aspect bonne volonté et juste relation. Cela nous invite de façon impérative à ne venir participer au groupe qu'en laissant nos personnalités au vestiaire. En vous rappelant que la critique et de l'acide énergétique. C'est l'énergie de destruction. Ça s'inscrit dans la séparativité. Et ce qui fait que si on laisse ce genre d'attitude se développer, le groupe va s'enfermer dans sa personnalité de groupe. Lorsqu'un être, dans son stade d'évolution, a rejoint un groupe physique, il peut, si il tombe dans ce genre de piège, être enfermé dans le cercle infranchissable du groupe. Ce qui veut dire qu'il aura à faire le ménage de ses pollutions et des pollutions du groupe. Donc, je vous invite, si vous voulez vraiment participer à un groupe authentique, surveillez cette faiblesse ô combien naturelle pour l'homme de cette terre de critiquer. Ensuite, comprenons bien que le principe du groupe, c'est le cercle et par conséquent la table ronde. Et qu'il n'y a aucune démarche de domination, de faire valoir, qui peut être acceptée. En parlant de la critique, ce que l'on critique souvent chez l'autre, ce sont nos faiblesses qu'on ne voit pas. Étant entendu qu'être amour, c'est aider l'autre à devenir meilleur, et non pas à vouloir se grandir en s'appuyant sur les soi-disant faiblesses de l'autre. L'ambition fait partie de l'hydre à neuf têtes. Cette aventure de vivre en tant qu'être que nous sommes en réalité, puisqu'en fait nous sommes la vie centrale à bord de ces mondes de vie mineure dont nous avons la charge, qui sont nos vies mentales, nos vies émotionnelles et nos vies physiques. Nous devons, dans cette démarche des règles du groupe, c'est comprendre comment les anciens ont transmis leur expérience, leur vécu, pour arriver à cette plénitude de l'unité de groupe.
Monsieur, quand tu parles de ça, nos vies mentales, astrales, physiques,
oui.
Qu'est-ce qu'il en est du rapport aux esprits de la nature qui correspondent à ces plans-là ? Aux gnomes, aux sylphes, aux ondines, et est-ce qu'on a nous-mêmes intérieurement, on peut dire un gnome, un sylphe,
en permanence, en tant que centre d'énergie, au pluriel, corps éthérique, corps astral, unité mentale, ces centres d'énergie qui constituent ta personnalité, centre de synthèse de ces vies lunaires, fait que tu es traversé en permanence par des forces. Où ces forces restent à ce niveau horizontal, c'est-à-dire le pot commun de l'humanité du quatrième règne, où tu permets à des énergies plus hautes d'utiliser tes centres de rayonnement. Mais ton choix en permanence détermine quelle énergie tu véhicules, tu rayonnes. La réalité, c'est ça.
Mais gnome, sylph, etc., c'est pas plus haut.
Ben non, les gnomes, les lutins, les elfes, c'est une évolution dans l'aspect ligne d'énergie qui n'a pas la soi conscience. Ils ont leur propre évolution. Simplement,
La différence, c'est que la ligne des centres d'énergie va mener à l'être humain, qui lui doit arbitrer entre le bien et le mal. Les êtres énergie n'ont pas cette finalité-là. Eux, ils ont à se soumettre à l'exactitude demandée. Et ils sont par nature joueurs.
Donc le travail avec eux, c'est un travail de collaboration, mais c'est nous qui donnons les tâches à faire.
Quand tu te laisses aller à des appétits physiques, des passions, tout ça, tu es traversé par des lutins lunaires qui occupent cette entité lunaire qui est en toi, qu'on appelle la personnalité. Et plus tu nourris, plus la grenouille devient le bœuf.
Quand tu dis lutin, c'est englobant, donc on a...
Lutin, c'est, j'appelle ça, je désigne les êtres énergie.
On a des gnomes lunaires, des sylphes lunaires, des ondines lunaires.
Mais oui, quand tu... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des êtres énergie qui construisent la manifestation minérale, végétale, animale. Et puis, tu as des êtres énergie qui s'occupent plus particulièrement du règne humain. C'est pas les mêmes.
Il y en a autant, il y en a dans chaque règne.
Bien sûr. La vie, c'est deux lignes d'évolution, c'est des centres d'énergie qui vont se traduire par les règnes de la nature. Bon, mais les règnes de la nature sont traversées par des énergies. Voilà. En fonction de tes choix de pensée, tu choisis telle ou telle ligne d'énergie. Mais au fur et à mesure que tu progresses, tu permets à des êtres au-delà, donc des hiérarchies supérieures, de te traverser.
Mais c'est aussi une question de fréquence, c'est-à-dire que plus on va nettoyer, se libérer de vie mineure, plus on donne la place, on laisse la place et on se met à la fréquence du plan de conscience supérieur.
Plus tu montes, plus les fréquences sont élevées. Et parce que tu es à telle fréquence, tu peux supporter tel feu.
Mais c'est pas aussi en descendant qu'on s'élève, c'est-à-dire le rapport à la terre-mère ou à cet esprit de la terre, ça c'est pas un passage obligé.
Si, la vie doit descendre jusqu'au plan terrestre et ensuite remonter. Quand tu es au stade humain, tu, en fait, ignores, mais tu es le guide désigné pour faire progresser les rênes de la nature. Même si tu ne le sais pas. L'être humain doit être Mercure marchant sur la Terre. Le messager des dieux.
Donc si on est en remontée, en cinquième règne, c'est-à-dire que cette intégration avec la terre-mère a déjà été faite.
Mais oui, voilà. Ça, si tu veux, dans tes corps énergétiques, tu as contact avec l'âme du minéral, ton corps éthérique, avec l'âme du végétal, ton corps astral, avec l'âme du corps animal, l'unité mentale, qui fournit l'essence de leur règne à l'être humain.
Donc l'être humain, il a tous les règnes en lui. Les règnes, les éléments, tous les atouts en lui, l'être humain. Dans tous ses corps.
Eh oui, regarde.
Il a tout traversé, donc il est traversé.
Regardez.
L'involution. Descendre dans la matière. Je vais vous le prendre. L'homme. Transmet son énergie. Je parle de l'homme, règne
humain, transmet son énergie polluée à l'animal, qui transmet au végétal, qui transmet au minéral. J'écris de mieux en mieux. Le minéral nourrit, ça c'est l'énergie, hein, au niveau énergétique. Le minéral nourrit le végétal, qui nourrit l'animal, qui nourrit l'homme. Alors, les pollutions, il les récupère là. Et la boucle est bouclée.
C'est marqué quoi en bas ? Minéral.
Le minéral. Tu sais pas lire ça ?
Minéral.
Bon, enfin, enfin, tout de même.
Il faut que tu m'achètes des lunettes. La chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes tous interdépendants dans le vaste ensemble. Les pollutions que nous générons sont transmises à l'animal. Vous avez par conséquent l'explication de la férocité, qui perturbe le végétal, qui désertifie le minéral. Un désert est un lieu où la pensée humaine a brûlé la vie. C'est l'explication des déserts. Le peuple noir fut en son temps, dans son rôle dominant, un peuple cruel. Il a désertifié son pays, l'Afrique, et vous voyez les retours karmiques que se prend le peuple noir. À partir de là, en retour, et là on n'est plus en énergie mais en substance, eh bien c'est transmis au végétal qui nourrit l'animal, et l'animal et le végétal renvoient les pollutions à l'être humain, en retour. D'où la démarche de vivre avec un esprit sain, dans un lieu sain et une alimentation saine. Voilà. Vous comprenez que ce que nous absorbons est très très bas par rapport à ce que devrait être l'équilibre naturel. Ce qui favorise en fait les pollutions de santé.
Si on n'avait pas de l'essence de bonne qualité dans un menteur, il s'encrasse, il tombe en panne.
Eh bien, ce que tu évoques là, tu l'as à tous les niveaux du comportement. Il y a une invocation pour les enfants. Petite lumière qui est dans mon cœur, je ferai de moi une belle maison pour que tu puisses y grandir. Tout est dit dans cette phrase-là. Tout est dit. Parce qu'il y a différentes lumières. Il y a la lumière de la matière, mais... Hein? Ne confondez pas matière et substance abstraite absolue, qui est le noumen de la matière, qui est l'espace abstrait absolu. Il faut comprendre qu'à l'origine du mécanisme, la pensée crée les mondes. Et votre pensée crée vos corps. lorsque l'être est dans le cinquième règne, je vais rassurer quelqu'un qui s'est toujours interrogé d'une manière un peu d'humilité, et je ne peux que l'en féliciter. Ces choses ne sont compréhensibles parce qu'elles sont éclairées par l'être. Donc je dirais modestement que les êtres autour de la table sont des êtres du cinquième règne. La difficulté, c'est pas de le savoir, c'est de l'assumer. On est dans le naturel des choses.
Petite lumière qui est dans mon cœur, la phrase...
Tu me donnes la vie. Je ferai de moi une belle maison. Je pourrais vous la donner, hein, je pourrais vous ramener là. Mais pour les enfants, tout est dit. S'ils intègrent ça, voilà. J'aiderai les autres à devenir meilleurs pour que tu puisses aussi grandir en eux. Et un jour, tu seras partout sur la terre et les reines de la nature recevront tes bienfaits. Voilà.
Oui, parce que là, c'est les règles de la nature.
Si je l'oublie, demandez à Chris. Elle vous la fera passer.
Et c'est quoi ?
C'est l'invocation que devrait exprimer un enfant éveillé.
D'accord.
Petite lumière dans mon cœur. Cette invocation, si elle était donnée aux enfants et reçue par eux au sens de compréhension, mais vous changez le monde. Ce que nous évoquons de la première règle, c'est le fait de bien comprendre ce que nous sommes. Nous sommes un centre d'énergie conscient qui subissons les forces du centre énergétique planétaire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'humanité, ou qui arrête de subir et qui dit « je gère ». Alors c'est de comprendre qu'il y a une distinction entre le monde solaire dans lequel nous sommes réellement en tant qu'être, âme, et puis le monde lunaire que l'humanité a en charge. Mais tant que la distinction n'est pas faite, eh bien l'être n'a pas la clarté de compréhension. Puisqu'il est dépendant de ses appétits, de ses pulsions, de ses passions et des formes pensées collectives.
Mais d'abord on gère nos propres lunaires, c'est-à-dire qu'on va être dans ce combat-là.
Propre, c'est vite dit. Hein.
Dans nos lunaires.
Oui. Ouais. Une fois qu'on a... Oh, tu dois bien en avoir un bien crasseux quelque part.
Je connais, je vais pas me mettre à l'écart. Une fois que tu arrives à un stade de maîtrise ou on dirait un stade de rayonnement, le travail, c'est pas ce qu'on croit qu'un travail plus chamanique, on va attirer nécessairement à soi des trucs qui vont venir se transmuter à travers nous. Ça va être un travail de rayonnement. On est plus dans un travail chamanique.
Plus tu vas vers la réalité, plus c'est simple. C'est le mental lunaire humain qui complique tout. Le mental divin est simple. Le père te dira, mon mental est immobile, le tien est très mobile. Le père est fixé dans son dessein. Il a créé cette planète il y a 300 milliards d'années et il demeure. À un moment donné, à ta dimension, tu fais pareil. C'est-à-dire que tu as le double regard. Ça veut dire que tu sais pertinemment ce que veut dire ta présence sur Terre. Tu sais pertinemment que tu dois rayonner. Rayonner, ça veut dire générer des énergies que tu puises sur le plan du vrai, du beau, du bien. Quand tu choisis, tu es traversé par. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu es traversé par.
C'est la conscience.
Parce que est-ce que dans ce fait de choisir, déjà on a projeté quelque chose à travers notre pensée, et comment la pensée est créative, donc à ce moment-là, on attire donc cette énergie-là.
Oui.
Est-ce qu'on l'approche ?
Oui. C'est-à-dire que tu fais un état de compréhension. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu es donc, tu assistes à une situation donnée. Tu vas avoir tes lunaires qui vont, par habitude de comportement, s'exprimer. Te donner une réponse, on va dire, d'habitude. Tu as 12 secondes pour dire « je nourris pas ». « je pousse pas ». Donc tu as le discernement qui intervient. Et puis, tu fais ton choix de lumière en disant « voilà comment j'éclaire le sujet ». Et cette lumière, c'est de la substance, la lumière, c'est de la substance. Ça veut dire que vous allez chercher l'énergie de substance de ces hauts plans. Qui sont quoi ? Qui sont le corps ? Est-ce que vous l'avez mis ? Ouais, alors. Qui sont où du corps ? On est dans l'homme céleste, hein, on n'est pas dans le logos planétaire. Hein. Qui sont où le corps émotionnel, astral de Sanat Kumara, ou son corps mental, le plan atmique. Et c'est comme ça que vous devenez le père. Vous le vampirisez, dans le bon sens du terme.
Oui, mais la question est de dire, au moment où on fait le choix, au moment où on fait le choix, est-ce que nous sommes déjà éclairés par le plan, par l'énergie que l'on souhaite, ou bien est-ce que...
Tu développes au fur et à mesure de ton émergence, tu développes ton corps physique. Donc tu es à même de te confronter au monde physique. Tu développes ton corps émotionnel. Tu développes ton unité mentale. Ça te donne une personnalité, donc un phénomène de synthèse. Quelle est la difficulté ? La difficulté, c'est qu'après l'être, eh bien, il doit rentrer en épanouissement de son corps causal. Et ce corps causal, lui, il s'épanouit comment ? Ce corps causal qui, au début, est comme un œuf, se développe et épanouit ses pétales. Bon, vous avez 12 pétales. Bon, je ne vais pas faire le dessin complet, on l'a déjà fait. Bon, au fur et à mesure qu'il use d'une énergie d'en haut, vous avez, pourquoi le pétale ? Parce que vous avez une invocation, une évocation. Le pétale du lotus se développe parce qu'il y a invocation, il y a recherche d'une qualité énergétique et réponse de l'autre côté.
L'instinct a changé de niveau, quoi. L'instinct
a
changé de niveau.
Oui, et alors, après, quel est l'épanouissement ? Eh bien, c'est qu'au même titre que tu as eu à équilibrer, développer ton corps émotionnel, ton corps mental, tu développes ton corps bouddhique, ton corps manasique, ton corps bouddhique et ton corps atmique. Alors évidemment, quelqu'un qui a de la difficulté, et vous en aurez tous dans l'aventure, puisqu'il s'agit en fait d'épanouir ses corps, eh bien, ce qui au début, regardez, vous avez, depuis, on est à quoi, ça fait 26 ou 27 fois, eh bien, vous apercevez que ce qui était difficile à la compréhension, aujourd'hui, vous passez au-dessus, vous survolez dessus. C'est devenu automatique. Bon, ben ça veut dire que vos corps subtils se sont épanouis. Et donc maîtrise. Hein, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que vous réalisez ces corps, eh bien, vous prenez dans la substance lumière de ce plan. Quand Maitreya vous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », forcément, il est du plan bouddhique. Mais vous avez un phénomène, si vous voulez, d'aller-retour, c'est-à-dire que parce que vous pratiquez de justes relations, eh bien, vous prenez l'énergie de son royaume.
Et donc, nous acquérons une capacité de conscience. Et que nous devons exercer.
Voilà, et vous scintillez au début et vous rayonnez cette énergie après, tout simplement. C'est extrêmement simple, il y a une logique, si vous voulez, scientifique.
Il y a une jonction que je ne fais pas pour moi-même, c'est l'aide du cinquième règne à rayonner. Donc... dans ma vie, je parle à la limite. Quoi que je fasse, mon travail premier, c'est ça, mettons.
Et en même c'est temps, ta respiration spirituelle, le rayonnement.
Voilà. Mais bon, bah, comment exprimer ça ? Donc, quoi que je fasse, ça peut se faire dans n'importe quelle action et n'importe quelle situation qui vient à moi.
Tu es Caïn et Abel. Abel, c'est toi en tant qu'être réellement. Caïn, c'est ton jumeau qui est en fait une émanation de toutes les vies mineures, physiques, émotionnelles, unités mentales, que tu as sélectionnées dans un sens ou dans l'autre à travers ta progression dans le règne humain. Et qui, aujourd'hui, constitue ta personnalité, c'est-à-dire, en fait, un ensemble qui détermine tes références de travail. Ce qui veut dire que tu vas avoir à gérer, lorsque tu vas atteindre la maîtrise, Caïn et à imposer Abel. Ce qui veut dire que Caïn raisonne, Abel rayonne. Abel, lui, sa préoccupation, c'est de fusionner avec son père, l'homme céleste. Abel, lui, est intéressé par le vrai, le beau, le bien, le pur. C'est sa nature. Et il veut tellement cela qu'il veut disparaître dans le père. Puisqu'en fait, il sait qu'il est l'un. Et il doit devenir, redevenir l'un. Attends, je vais te le dire maintenant autrement. Le Père, c'est celui qui nous donne la vie. Présentement, en incarnation, c'est l'homme céleste, Sanat Kumara. Par le contrat de vie universel, le Père te dit, je t'ai confié mais ma vie au sein du minéral, au sein du végétal, au sein de l'animal. Ma vie traverse ces jeunes vies pour les faire grandir. Je te les ai confiées. J'attends que tu me les rendes telles qu'elles doivent aboutir. Or, comment ça se traduit en toi ? Par échapper aux pollutions qu'on appelle communément les vices, et cultiver ton jardin de vie mineure avec des vertus. Ça s'appelle rayonner. Voilà. Or, quand tu dis vice et vertu, tu dis force de destruction ou énergie de vie. ce que nous appelons le vrai, il faut que l'on intègre la notion que c'est de l'énergie qualifiée, de vie.
Ou la lumière blanche et les couleurs. Alors,
la lumière blanche est la synthèse des... voilà. C'est directement l'énergie de l'homme céleste. Mais il ne faut pas prétendre ce qu'on n'est pas. C'est très mal vu.
Cette lumière se divise dans les couleurs d'arc-en-ciel, donc là je suis c'est à Ivanov, la composition d'Ivanov, travailler avec le prisme et les couleurs de l'arc-en-ciel pur, c'est la même chose que travailler sur les vertus en fait, c'est un autre angle complémentaire.
Les sept rayons ont leur réalité au niveau de l'esprit. Tu as le premier rayon, rouge, dont la qualité, la caractéristique, c'est puissance, volonté divine. Deuxième rayon, amour, sagesse, bleu. Troisième rayon, intelligence active, vert. Quatrième rayon, harmonie par le conflit, jaune. La difficulté, et vous le comprenez, on retrouve Cain et Abel, l'harmonie, le 4, il unit le haut et le bas. 3, bon. L'harmonie, c'est la qualité fondamentale de l'énergie d'en haut. Puisque derrière le mot harmonie, vous avez armundi. C'est l'art de créer des mondes, donc la pensée créatrice. Bon. La remontée génère malheureusement la dérive qui émane de l'individualité, c'est-à-dire le conflit, la séparativité dans le monde où l'on est, nous. Et le 4 a équilibré cela. Jaune. Le 5, la science. Orange. Le 6, dévotion. Rose. Et le 7, violet, l'ordre cérémonial. Mais tout ça, ça repose dans l'évolution, parce que les êtres rayons ont aussi, comme on dit, leur parcours à faire. Vertu, vice, avec. Vertu, caractéristique positive d'un rayon. Caractéristique négative d'un rayon. Il faut redécouvrir ce que est voilé derrière ce qu'on appelle les vertus et les vices. Parce qu'en fait, ça désigne qualitativement la nature d'une énergie de vie ou d'une énergie de mort. Puisque l'une, c'est l'ascenseur, l'autre, c'est la descente aux enfers.
C'est le descenseur.
Et l'homme est le censeur.
Et voilà, absolument.
Redécouvrir la nature, donc redécouvrir le rayon, c'est le champ de conscience qui s'exprime chez nous en vice ou vertu.
En permanence, ce que tu exprimes, ce que tu penses, c'est de l'énergie qui te traverse. T'as un être énergie. L'être humain ne sait pas qu'en permanence, il est traversé par des êtres énergie. Avec tous les centres, hein, les sept centres du corps éthérique, du corps émotionnel, les quatre centres de l'unité mentale. Voilà. Où pompes-tu ton énergie ?
Dans les bas-fonds de Broadway.
Ça, ce n'est que des post-it pour que vous vous souveniez. Alors bien évidemment, hein, cette première règle, c'est veiller à avoir, à être avec un groupe authentique qui n'est pas en quantité mais en qualité. Parce que ce groupe rayonnant attire des êtres qui sont sur ces fréquences-là.
Et par rapport aux 12 secondes, par exemple, quand on a une parole malheureuse, elle a jailli, qu'est-ce qu'on fait avec ?
La première des choses, c'est que tu la neutralises intérieurement en disant « ça ne me va pas ». Et puis selon... Ah oui. Tu fais immédiatement une pensée corrective. Bon, et puis si ça a heurté quelqu'un, tu présentes des excuses. Cette parole m'a échappé. Je la rebobine.
On la rattrape.
Hein ?
On la rattrape.
Tu rattrapes le lunaire, là, le petit lutin. Hein ? Voilà. Ah non, mais t'as pensé pouvoir. Il y a une difficulté, si vous voulez, dans le cadre de l'instruction, c'est qu'on est obligé de décomposer les sujets. Mais après, ça devient un fonctionnement de synthèse. C'est la même chose, si vous voulez, que l'auto-école, c'est-à-dire que vous apprenez à bien comprendre tout le contexte, mais après, sur la route, vous n'êtes pas là à dire...
Mais dans un des livres de crise, c'est marqué qu'on peut dire « ré » intérieurement, comme un mantra. C'est la même fonction. Soit on fait une pensée inverse, positive...
Qu'est-ce que ré ? Ré, c'est la note fondamentale de notre système solaire. Au même titre que le premier, c'était le Fa.
Pourquoi c'est le
Fa ? Comment ?
Le premier système solaire.
Pourquoi c'est le Ré ?
Pourquoi c'est le Ré ? Mais pourquoi c'est le Ré alors ?
Hein ? Pourquoi Joël s'appelle Joël ? Hein ? C'est vrai ? On aurait pu l'appeler Cactus, par exemple.
C'était une excellente idée.
Surtout qu'il a des restes, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. T'as dû être cactus, Joël. Bon, allez. Non, derrière ce que tu dis, Ré, il faut comprendre le pouvoir du son. Le son, c'est ce qui mobilise les êtres énergie. Et la puissance de la parole concrétise. Ta pensée définit, désigne le futur. La parole concrétise. Un prénom est d'une importance capitale. Tu vois, par exemple, Joël, c'est la contraction de joie et de lumière.
C'est beau.
Il faut bien que je me rattrape, hein, parce qu'après, il m'en
puis chaque... Sinon, c'était un peu trop piquant.
Ouais, c'est... puis chaque fois que je me bats, je vais à l'hôpital, alors. Comprenons bien que venir à un groupe, ça implique un respect de tous les êtres. On ne s'occupe pas des autres, ils font à leur mode de toute façon, comme on dit, s'ils se prennent les pieds dans le tapis, ils ont l'effet boomerang. Cultivons, nourrissons, élevons le groupe. C'est notre champ d'amour. CHAMP, CHANT. Est-ce que vous avez des explications ? Vous devriez des explications.
Alors,
Oui, dans la règle 1, à un moment donné, enfin, il est dit, la porte est en arrière du groupe.
Oui.
Ça suppose que le groupe a déjà franchi...
C'est la sortie du quatrième règne. Où l'aide continue. C'est pour ça que quand je dis faut laisser notre personnalité au vestiaire, parce qu'en fait, si tu veux, c'est la nature de l'homme du quatrième règne. Puisqu'il édifie ça. Bon. Alors, tant que les aides se comportent en personnalité, ils sont du quatrième règne. Tu as à franchir l'entrée dans le cinquième règne en tant que disciple accepté. Ça veut dire ne plus dépendre de ses appétits physiques et ne plus dépendre de ses passions et pulsions émotionnelles. Quand l'être est accepté, et c'est là toute la responsabilité que chacun porte, même s'il l'ignore, l'être rentre dans la hiérarchie de lumière. Et s'il est accepté, même s'il voulait, c'est précisé, il ne quitterait pas, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le cinquième règne, et le cinquième règne, la hiérarchie de lumière l'assume. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de tous les êtres du cinquième règne. Donc quand un être arrive au groupe, un groupe authentique, c'est-à-dire qui a cette démarche de rayonner et de vivre en tant qu'être, eh bien, il faut qu'il laisse sa personnalité au vestiaire et il est accepté dans le vaste ensemble. C'est pour cela que vous avez toute cette assemblée de frères noirs. Malheureusement, en son temps, ils ont été acceptés. Et au lieu de servir, ils se sont servis. Vous savez, la puissance, le pouvoir, c'est dans la réalité servir la vie. Si c'est pour se servir, on dérive.
Pourquoi ils ne sont pas annihilés ?
C'est vrai, tu préférerais qu'on règle tout de suite le problème.
Tout à l'heure, on parlait de...
Oui, oui, non, mais Viviane, je l'ai dit en perspective, malheureusement, malheureuse pour eux. Hein. Mais si tu veux tirer la trappe tout de suite, vas-y, t'assumes. Il y a Viviane qui va venir et qui va dire « Bon, bah, moi, je fais le ménage, allez là. » Ils embêtent le monde. « Bah, si, non, bah, je te taquine. »
En fait, tu disais tout à l'heure qu'ils... Il
n'y
a que deux solutions et que
si ah oui, pour eux, oui. Ah oui, bah oui, c'est où ils reprennent, où ils acceptent les lois de karma. Hein? Donc, ils projettent en tant qu'être un parcours de rattrapage. Tu parles que quand... imagine les frères noirs qui sont débarqués comme Goebbels, Göring, Hitler et compagnie. Je vais te dire, si... Hein? Comment on dit ? Bon, voilà. Ou alors, s'ils refusent et perdurent. Mais de toute façon, la très grande majorité, en fait, refuse.
Et pourquoi ils ne sont pas annihilés ? Logiquement, ils devraient l'être.
Mais parce que la vie est amour.
Et que chacun a son libre arbitre.
Oui, et puis vous avez... Non, mais il y a un autre rapport, là, à prendre en compte. Le rapport, c'est que... Le rapport, si vous voulez, vous allez comprendre, c'est que... Vous avez un rapport planétaire entre la lumière et les ténèbres. Donc les forces noires. Enfin, je vous retrouve au cours élémentaire pour apprendre à écrire, moi. Et en fonction de ce rapport, eh bien, les frères noirs sont en position dominante ou ils sont en retraite. Or aujourd'hui, sur le plan subtil, la lumière est à plus de 90% dominante. Ce qui veut dire que pour eux, ils sont en train d'être obligés de sortir de leur caverne. À l'astral, ils sont obligés. La lumière est en train d'assécher l'astral. Et au fur et à mesure, ils sont obligés de remonter à la surface voilà, et de livrer bataille. Et puis, voilà. Alors, le combat, eh bien, c'est que ils essayent de déstabiliser les chevaliers qui sont en première ligne. Et s'ils n'y arrivent pas, ils sont embarqués. Alors là, ils auront le choix.
Tant qu'il n'y aura plus de ténèbres, on ne pourra pas voir la lumière.
Il n'y aura plus de lumière.
Bah oui, parce que c'était relatif.
Nous allons garder Gabriel pour assurer qu'il y a encore des ténèbres. Tu veilles, hein ? Tu veilles, hein ? Bon.
Dans le premier, dans la prophétie du cinquième règne, il est dit par rapport à l'époque où on est qu'il y aura deux temps. Il y en a un où ça va secouer badaboum, certainement très prochainement, et qu'après on aura un laps de temps très court.
Oui.
Pour montrer qu'on a changé l'orientation. Avant d'être soit éradiqué, soit on repart sur des bases nouvelles. Donc nous, en étant dans ce groupe, on se prépare à ce passage-là.
Bah, tu peux participer à... Ah non, je pensais que tu voulais sortir. Tu peux participer, voilà. C'est l'aventure commune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est attendu de nos pères, c'est que s'instaure une société de justes relations. En d'autres termes, une nouvelle civilisation. L'humanité doit épurer ses lourdeurs. Lourdeurs qui ont été jusqu'à générer en son temps la guerre 14-45. Aujourd'hui, l'humanité doit accepter que s'écroule cette civilisation du matérialisme. L'ordre cosmique, le septième rayon, a une double détente. Ce rayon s'est levé en 1825. Quand un rayon apparaît, si vous voulez, c'est comme un soleil. Hein. Il a son aurore, voilà. Et vous voyez comment cela a amené dans l'humanité l'évolution économique. Mais si il n'y a pas la réponse spirituelle qu'accompagne cette montée en épanouissement, l'énergie qui n'est pas absorbée devient destructrice. Oui, mais c'est une montée en... C'est une levée, hein, donc c'est crescendo, hein, c'est pas d'un seul coup. Et voilà. Alors, aujourd'hui, il faut espérer que l'humanité et sa fine fleur qui devraient être les économistes, les politiques, les scientifiques, répondent aux pluies de lumière que transmettent les sages au-dessus d'elles. Mais l'humanité est libre. Alors la difficulté pour les êtres que je viens d'évoquer, c'est qu'il faut qu'ils aient l'audace de se distinguer de leur club de gens dits bien-pensants. Nous sommes actuellement, je vous l'évoquerai tout à l'heure, nous sommes actuellement depuis le 12 décembre jusqu'au 21 décembre à une période extrêmement faste de portes ouvertes du ciel. est propice dans les êtres avancés de l'humanité. Quand vous pensez à ce sujet, ayez cette lumière bienveillante de soutenir leur réaction de se lever et d'affirmer ce qu'ils pensent réellement. En cela, vous semez dans le mental humain. C'est pas compliqué. C'est simplement, il faut être authentique. Qu'est-ce que tu disais ?
Ils n'ont pas en toc.
Ouais. Mais pour l'instant, ils sont en auto-toc. Hein. Il nous faut comprendre que dans notre réalité d'être, tout ce que nous avons connu dans le quatrième règne est illusion et mirage. Eh bien, nous devons comprendre que notre force réside dans notre unité. Et que chaque fois que vous voulez faire un travail spirituel pour soutenir et aider l'humanité, eh bien, il faut toujours vous relier en tant qu'unité de groupe, et plus particulièrement au groupe physique que vous connaissez. Et vous pouvez les visualiser avec bienveillance. Étant entendu que notre richesse, ce sera la différence des personnes. Nous n'avons pas à faire un club mondain. Chacun est riche de particularités. Et s'il est au groupe, il faut respecter et aider à cet épanouissement. Le terme groupe peut vous surprendre, mais sachez que en tant qu'être, c'est notre nature. Il faut comprendre que quand vous passez au-delà, ici, les véhicules sont arupa, c'est-à-dire sans forme.
Au-delà de...
Là, ici. Quand vous rentrez dans le mental supérieur, ils sont sans forme, c'est-à-dire dépouillés de lourdeur concrète. Ce qui permet l'unité de l'eau. La goutte est fusionnée. Et avec la même caractéristique, c'est que la conscience est la conscience de l'ensemble. Ce qui amène à l'omniprésence, puisque voilà. Ce n'est que notre corps dense qui nous sépare. Notre corps énergétique, lui, il est dans l'océan d'énergie. Vous voulez une preuve? C'est simple, regardez. Qui peut dire qu'il a respiré un espace d'air différent des autres? Plus on va en élaboration de la matière, plus il y a cette réalité unitaire. C'est bon, ça suit. Nos réunions précédentes ont en fait préparé tout ça. Hein, je veux dire, on ne fait que reprendre quelque chose. La lumière claire et froide rayonne. La lumière claire, ça implique la lumière de discernement, la lumière de compréhension. Si tu veux, je suis à la page 23.
Oui, ça y est, j'ai trouvé la lumière claire et probablement la page 14.
Elle est froide. Ça veut dire quoi, elle est froide? Ça veut dire qu'elle est dénuée de passion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dénuée de sensibilité. Bien au contraire, et c'est ce qui explique l'aspect chaleur. Suscitée par l'amour de groupe, et permet à la chaleur dynamique de s'extérioriser. Et dans cette lumière, vous verrez une autre lumière, la lumière du Père. Eh bien, quand il y a l'amour de groupe, le Père, la racine de vie, nos racines de vie, l'un, là on n'est plus ta racine de vie, ma racine de vie. Eh bien, elle peut commencer à s'exprimer, puisque l'espace qui lui est donné de se manifester, donc le groupe, s'est qualifié pour le recevoir. Bon, comme je vous l'ai dit la dernière fois, hein, je vais vous laisser. Voilà. Alors, lorsque la personnalité de groupe est dépassée, en d'autres termes, lorsque la porte est franchie, nous rentrons dans la voie de l'évolution supérieure. Ce qui veut dire que nous allons participer à l'instauration de la maison du Père sur la terre. Vous savez que, en termes orientaux, la maison du Père, au niveau éthérique, est désignée sous l'appellation Shambhala. Mais qu'est-ce que Shambhala ? Shambhala, c'est un champ de conscience. Ça veut dire que lorsque les êtres entrent dans la réalisation de la pureté, en pratiquant le vrai, le beau, le bien de l'ensemble, et en étant constant dans cet alignement, il progresse en perfection. Ils vont monter en puissance en intégrant le dessein de celui qui donne la vie à la planète. Pourquoi a-t-il créé cette planète de souffrance ? Pourquoi a-t-il créé cette planète et quel en est le dessein ? Lorsque l'être en unité de groupe, et je dis bien, qu'on se comprenne bien, le temps n'est plus de la réalisation individuelle.
celui qui dirait « je mène mon chemin hors du groupe », eh bien, il fait son labyrinthe comme il veut, mais il n'y a qu'une porte d'entrée, c'est la notion de groupe. Et comme un labyrinthe, il pourra faire tout le tour, et puis là, il n'y a qu'une porte d'entrée, c'est le groupe, la notion de groupe. Mais à nous de veiller quel groupe nous choisissons, hein. Hein, nous rejoignons. Bon. Quand il a compris le dessein de celui qui donne la vie à la planète, quand il a compris le dessein hiérarchique, le plan divin, quand il a compris le plan du groupe, le dessein du groupe, quand il a compris son propre dessein et qu'il assume son dharma, donc son contrat de vie qu'il a compris, il devient un initié. Toute la différence est là. Chaque être demeurera toujours dans son évolution un étudiant. Mais il doit être aussi un serviteur actif. Alors, s'ouvre la voie, dans un premier temps, vers la maison du Père. Donc les champs de conscience, c'est-à-dire de s'installer d'une façon permanente dans ce rôle de rayonner les énergies du corps physique, éthérique de l'homme céleste, le vrai, du corps astral de l'homme céleste, le beau, du corps mental de l'homme céleste, le bien de l'ensemble. C'est là où vous comprenez le processus d'absorption de l'être dans l'homme céleste. C'est pour ça que Maitreya vous dit il y a 2000 ans, celui qui me voit, voit le Père. Je baigne dans son corps émotionnel qui est amour. Je baigne dans son corps mental qui est le bien de l'ensemble.
Mais ce Père pour nous, c'est Sanat Kumara.
Oui, l'homme céleste, c'est Sanat Kumara. C'est son nom. Kumara, ça veut dire régent. Sanat, c'est un anagramme
de Satan.
De Satan.
Et il y a un lien direct Sanat Kumara et Pan.
Pan est un être énergie, grand Deva, représentatif de la Sakti du Logos planétaire. Sakti. C'est-à-dire l'être énergie. À un moment donné, tu auras ta Sakti, c'est-à-dire un être énergie. C'est quoi ? Ben, à un moment donné, la monade humaine fusionne avec une monade dévique, avec un Deva.
Donc Pan, c'est la Shakti de Sanat Kumara.
Il est un des aspects... Non ! Du Logos planétaire. Il est le grand Deva du plan physique. Alors bien sûr, il y a un lien, on ne peut plus direct, puisque Sanat Kumara est la présente incarnation terrestre du Logos planétaire.
Comme tu as dit Shakti Kundalini, Kundalini c'est quoi alors ?
Kundalini, c'est la montée de l'énergie. Bon, mais tu as une Kundalini planétaire. Mais pour l'instant, si tu veux, le sujet n'est pas d'actualité, simplement, il faut comprendre qu'à un moment donné, eh bien, l'énergie planétaire va remonter, et ce qui entraînera l'apocalypse, c'est-à-dire l'embrasement du plan terrestre.
On se prépare à ça aussi en tant que groupe, à pouvoir assumer cette remontée.
Oui, bah oui, parce que essayons de comprendre que la réalité, être en manifestation, être en incarnation, que ce soit l'être humain, que ce soit l'homme céleste, que ce soit le logos planétaire, ça veut dire qu'on est encore dans le chantier de réalisation et qu'on est emprisonné dedans. Et ça, la mort. Quand tu quittes ton corps, tu renais à ta réalité, à toi. Mais tu restes avec, comme on dit, ton carton sous le bras en disant « j'ai pas fini mon chantier ».
Et d'après ce que je comprends, on a bien effectivement un dessin propre,
oui,
au sein du groupe.
Mais oui, parce que toute vie n'est pas créée, comme on dit, simplement pour faire du décor. Cette vie porte en réalité une richesse particulière. Oui. Voilà, le tout, c'est d'arriver à rejoindre la racine de vie qui, à un moment donné, peut épanouir son dessein.
Parce qu'on aurait pu penser qu'on avait le dessein du groupe.
Mais oui.
Mais en fait, c'est.
Mais tu partais. Absolument, absolument. Au même titre que le groupe a un dessein hiérarchique, au même titre que la hiérarchie a un dessein planétaire.
Oui, Joël, tu peux redire ?
J'ai dit que nous
le
avons
groupe a un dessin.
Nous avons notre propre dessin dans le dessin du groupe. De oui. Même que nous avons notre propre dharma dans le dharma du groupe.
Oui, voilà. Et la question, c'est de dire, on se serre les coudes pour faire que la poussée vers le haut, mais en restant les pieds sur terre, se réalise.
Pour moi, il n'y a plus d'existence du groupe.
Ah ben non, ben c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez la tentative. On la voit, vous avez des mouvements entre guillemets spirituels, vous avez d'abord les églises qui se sont fourvoyées, vous avez ensuite des groupes spirituels mais qui malheureusement sont tombés dans le laxisme de la quantité. Vous prenez la franc-maçonnerie, au départ c'était un mouvement d'en haut fort spirituel, il faudra qu'elle retrouve ce niveau. Et certaines branches sont devenues des clubs d'influence. Alors, il y a la voie vers le Père, donc le champ de conscience du Père. C'est difficile de comprendre le vrai. C'est difficile de comprendre le beau, l'élégance. C'est difficile de comprendre le bien de l'ensemble. La mettre en pratique, certes. Bon, mais à le comprendre.
Le vrai, c'est pas toujours évident.
Si. Si, parce que tu sais pertinemment ce qu'il en est. Si ton intuition fonctionne, tu sais, c'est ça ou qu'il y a quelque chose de biseauté. Voilà. Tu veux l'exemple le plus direct ? Tu prends nos hommes politiques qui se battent avec le nœud d'être superficieux, c'est-à-dire de ne pas dire ce qu'ils pensent. De ne pas dire ce qu'ils pensent. Bon, et dans quoi ? C'est la langue de bois. Mais actuellement, ils sont discrédités.
Ouais, bah là, c'est assez flagrant.
C'est ton intuition qui doit augmenter son foyer de discernement. Et il peut être voilé par des attaches d'affectivité. Hein.
Alors, tous ces économistes, politiques, scientifiques qui aujourd'hui pas dans le bien, le beau, ils reçoivent les belles énergies qui descendent en ce moment.
Ces énergies flottent au-dessus.
Ils n'ont pas des voiles, ils peuvent le recevoir. Sinon, on pense...
Mais attends.
Est-ce qu'ils peuvent
recevoir ces belles énergies ? Chantal, je te... Alors,
cette lumière.
C'est extra ce que tu évoques. Là-haut, relayé par la toile de lumière sur la terre, ce qui lui donne une particularité d'efficacité parce que nous sommes au sein de l'humanité. Est-ce que vous comprenez l'efficacité dont disposent les groupes véritables ? Ils sont dans l'humanité. Donc, ça n'est plus, si tu veux, la pluie des choses connaissables que font flotter les sages sur l'humanité, qui est une potentialité, mais là, on est dedans. Donc, le feu de lumière est à l'intérieur du mental humain.
Donc il est dedans, qu'on soit conscient ou pas.
Ah bah oui,
donc, bon, tous ces
alors,
êtres, ils le alors,
simplement, il y a les voiles.
Oui.
Les voiles, ça veut dire tout ce que, et je vais bien cerner la chose, tout ce que les gens dits bien pensants ont défini comme étant de bon aloi. Ce qui se traduit par pas une tête sort des rangs. Autrement, il est regardé comme dérangeant. Et c'est là où est nos problèmes actuellement. C'est que il faut que les êtres qui ressentent aient maintenant l'audace de dire « ça suffit, on va dans le mur ». Mais c'est prendre le risque de leur carrière. Au même titre que tu as De Gaulle qui s'est levé à un moment donné. En se levant, il se mettait au banc des... Voilà. Il devenait, comme on dit, « wanted ». Et ben, voilà. Il faut qu'ils osent ça avec le risque de se planter et la trouille de se planter.
Parce que l'année dernière présidentielle, il y avait Nicolas Hulot qui voulait se présenter. Et il a craint pour sa vie personnelle.
Bah, oui, voilà. Tu sais...
Et hein. Là, il veut à nouveau se présenter.
De l'audace. Mais soutenons, voyez ce qu'il faut comprendre. C'est que dans la réalité, bon, je ne veux pas faire de secret, Hulot est un être du cinquième règne. Bah. Ce qui veut dire que nous sommes solidaires en réalité. Et notre pensée intentionnelle, bienveillante et à le soutenir, si vous voulez, c'est autant de bien-être qu'il ressent. Hein ? Mais le sujet qui est actuellement, si vous voulez, c'est que là-haut, il y a un alignement de lumière céleste comme un ciel bleu. Du 12 décembre au 21 décembre. Ça veut dire que les conditions atmosphériques du beau, si vous voulez, du bien, sont en ciel bleu. Le tout, c'est comment les êtres en bas, avec leurs voiles, vont arriver à répondre et puis à avoir l'audace de se lever. Ah, la suggestion est bonne.
Ah. En attendant, il y a des lunaires qui nous attendent.
C'est vrai.
Est-ce qu'on peut dénoncer cette audace au niveau du groupe, est-ce qu'on peut le dénoncer au niveau d'un individu aussi ?
Ça dépend ton contexte, parce que là, cette audace, en fait, et c'est là toute la différence, c'est que nous allons faire... un champ énergétique de lumière éclairante pour assumer, comme on dit, la marche en avant, l'audace, oser. Bon. Et ça, c'est d'une façon, comme un soleil, d'une façon générale. Ça pourra toucher la France comme ça pourra toucher ailleurs. Puisqu'il y a d'autres points qui sont censés, comme on dit, faire écho. Sur l'individu, là, tu es plus dans un cas particulier et c'est pas du tout la même dimension.
Donc
J'ai pas dit que c'était non. Je t'ai dit que tout le, quand tu parles d'un individu, tu parles d'un cas particulier. Donc ça dépend du contexte, voilà.
Puis on peut se tromper.
Tu ne te trompes pas quand tu restes rayonnant et bienveillant. Tu ne fais le bien ne fait jamais de mal à personne. Il peut simplement enfoncer l'être dans ses méandres, puisque l'énergie est neutre. Donc quand tu as une montée en énergie, ce qui est positif s'extériorise, ce qui est négatif se replie sur lui-même et s'enferme.
C'est une astrologie,
c'est-à-dire que tu as en fait dans cet univers, dans les sept univers, tu as tout un concert de vie céleste qui ont leur rythme, qui ont leur cycle, qui éclaire l'évolution des vies en fonction de rythmes, d'intermèdes, voilà. Et nous avons un intermède très particulier qui va aboutir à ce que la Lune soit en éclipse le 21 décembre.
C'est la pleine
lune, les... oui. Oui. Et éclipse de Lune. Ah, ça veut dire que les lunaires seront réduits.
Ah, d'accord.
Et que le solaire, c'est-à-dire, voilà, il y a une opportunité, mais qui est une montée en puissance du 12 au 21. Le 12, la fête de la lumière, et pendant tout cet espace-là, eh bien, tu as un ciel bleu énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les voiles du négatif pour... tu comprends ?
Par l'astrologie,
ah ben c'est écrit. Fanchon Pradalier-Roy, qui est quand même une astrologue éminente, hein, je lui avais demandé de regarder et elle a sorti toute une étude qui conforte complètement cette
tous les ans. Non.
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 Non. Non. Non. Non. Non. Parce qu'il y a un alignement très particulier de planètes. On arrête là, à moins que vous ayez, en attendant... Non, mais c'est bon. Hein. Pas de questions, c'est bon, on a vu.
C'est bon.